Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Karine Gaucher, donc coordonnatrice aux communications à la Guilde, mais aussi co-commissaire d'une des deux expositions inaugurales en cours à la Guilde. Et qui souligne, ces deux expositions, ça souligne un tout nouvel espace de diffusion qui était espéré, je vous dirais, de longue date et qui double la capacité d'accueil. Alors, après le 110e anniversaire en 2016 et qui soulignait toute la contribution de cette institution montréalaise, en est toute une, accompagnée d'une programmation intense en 2016. Alors, c'était quelque chose. Place maintenant à une nouvelle étape en 2017. Donc, c'est deux années intenses. Une nouvelle étape, donc, dont il sera question à l'instant avec mon invité en studio. Bienvenue, Karine Gaucher.
Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
C'est vraiment un grand plaisir. Alors, tout d'abord, avant qu'on aille plus à fond dans cette nouvelle étape, qui est d'ampleur d'ailleurs, je vous dirais, peut-être revenir aux sources, nous parler du mandat de la Guilde. Il n'est peut-être pas suffisamment connu par le grand public.
Bien, déjà, la Guilde, c'est anciennement, on la connaissait sous le nom de la Guilde canadienne des métiers d'art. Donc, ce nom-là est resté quand même là, dans nos lettres patentes et tout ça. Mais c'est important quand même que les auditeurs qui nous écoutent là, sachent que maintenant, la Guilde, c'est un endroit, en fait, où on va préserver, on va faire la promotion et on encourage les métiers d'art, l'art inuit et l'art des Premières Nations. Et ça a été le mandat, la mission, en fait, que les deux cofondatrice s'était donnée au tout début de la Guilde. Donc, en 1906, donc on fêtait notre 110e l'année dernière. Donc, 1906, c'est la fondation de la Guilde. Et les deux cofondatrices, dont les noms sont Alice G. Peck et Martha May Phillips, qui étaient des femmes de la haute bourgeoisie anglophone de Montréal. Donc, c'est un peu pour ça aussi, je pense, que la Guilde est peut-être un petit peu moins connue là, du côté des francophones, mais la nouvelle équipe avec qui on est présentement, là, on est vraiment une toute nouvelle équipe là, à la Guilde. Ça fait moins de 5 ans pour la plupart que nous sommes là. On a encore des gens que ça fait plusieurs années qui sont là. Mais il y a vraiment eu un virement, une nouvelle direction là, qui a été amenée avec la nouvelle directrice qui est Michèle Joannette. Et on s'enligne vraiment dans des pratiques artistiques, des techniques innovatrices dans les trois mandats, donc qui sont l'art inuit, l'art des Premières Nations et les métiers d'art. Donc, ce qu'on a fait, en fait, les gens trouvent que c'est vraiment pas révolutionnaire, mais vraiment un peu cutting edge, mais en même temps, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on est retourné à la mission de la Guilde, qui était vraiment de présenter l'art contemporain. Donc, l'art contemporain de 1906, mais c'était l'art contemporain de 1906. Et là, l'art contemporain, présentement, en art inuit, en art des Premières Nations, ça bouge beaucoup. Donc, c'est ça qu'on représente aussi, là, à la Guilde.
Ben oui, donc l'art contemporain dans ses trois disciplines dans 2016.
Voilà.
Voilà.
Et 2017.
Donc, 2017. Donc, une équipe qui va vraiment de l'avant. Et ce n'est pas que des expositions. Il y a toute une collection à la Guilde.
Oui.
Oh là là. J'avais un centre de documentation, alors...
Les archives, présentement, il faut quand même mentionner qu'on vient de déménager. Oui. Donc, on a mis tous nos efforts là, pour que la soirée d'ouverture soit grandiose.
Impeccable et grandiose.
Impeccable, bien organisée. Oui. Tout le monde était vraiment très, très content. Vous y étiez. On était très contents de vous y voir également.
Oui.
Et donc, je vous dirais que la collection et les archives, pour le moment, ils sont pas accessibles au public.
Avec raison.
Mais les archives, en fait, ce sont... on dit que c'est 110 ans, mais il y a eu aussi plusieurs actions qui ont été menées par ces deux femmes-là, les deux cofondatrices, avant 1906. Donc, je dirais, là, à vue de nez, peut-être 120 ans d'archives dans les murs de la Guilde présentement. Donc, faut tout remettre en place. Mais c'est surtout des archives qui sont disponibles pour des chercheurs, par exemple, universitaires. Mais c'est drôle parce que j'en parlais ce matin et En fait, c'est pas seulement sur la guilde. En fait, c'est vu que la guilde est vraiment au cœur de l'émergence culturelle de la métropole depuis depuis les débuts en fait de la Art Association et tout ça. Donc, ça fait vraiment partie de cette histoire-là. Donc,
Art Association qui est à l'origine du Musée des Beaux-Arts.
Du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Tout à fait. Faisons des liens aujourd'hui.
Oui.
Et aussi, en même temps, faisons également des liens. C'est la guilde qui a fait la première exposition d'art inuit en 1949.
C'est quelque chose.
Dont la plupart des collections des musées de Montréal ont, en fait, les musées ont acheté des œuvres à ce moment-là. Et c'est à partir de ces œuvres-là qu'ils ont construit leur collection considérable d'art inuit et d'art des Premières Nations.
Donc, la guilde a longtemps joué un rôle central dans le collectionnement, puis dans l'établissement de musées.
Tout à fait.
Tout à fait. Et là, je pense que vous avez, là, on va parler du nouveau lieu de diffusion. Je pense que vous faites une part, vous faites une bonne place, là, à la collection permanente dans votre nouveau lieu de diffusion. Ce n'est pas que des expositions temporaires.
En fait, présentement, là, si les gens viennent, ils vont le voir, ça fait une espèce de C renversé. Donc, quand on rentre, il y a une espèce d'espace qu'on appelle le concept store où on a plusieurs artistes et on a vraiment décloisonné. Donc, il n'y aura pas un endroit exactement dans cet espace-là où vous allez avoir art inuit, art des Premières Nations. Mais on voulait vraiment qu'il y ait une thématique plutôt de couleurs, de techniques qui viendrait vraiment rejoindre là, tout ces œuvres-là. Dans l'autre partie, donc quand vous procédez vers l'arrière, vous allez voir notre espace d'exposition temporaire. Donc là, présentement, c'est Hot Matter, matière incandescente qui est là. Et en arrière, donc tout à fait en arrière de l'espace présentement, là, on va avoir la collection permanente, en fait, l'exposition permanente de la guilde basée pour la plupart sur des objets et des artefacts de la collection, évidemment. Présentement, c'est pas le cas. Présentement, c'est l'exposition Inuit, Huajimajat Hukangit. Donc, c'est une exposition d'art inuit qui a été commissarisée par une firme d'architecture qui s'appelle Évoque Architecture, par un architecte qui s'appelle Alain Fournier. Et présentement, c'est ce qu'on voit là, quand on rentre à la guilde présentement.
Alors, ils sont commissaires, et c'est pas fréquent quand même qu'une firme d'architecte soit commissaire d'une exposition, mais c'est bien le cas parce que c'est une exposition spéciale. Hein?
Oui.
Elle est en cours là, jusqu'en septembre 2018.
Oui.
Encore très longtemps. Et c'est l'aboutissement d'un concours d'art public. Hein?
Exactement.
Oui. C'est original. Alors, c'est surtout des dessins, oui.
C'est surtout, en fait, ce qu'on a exposé, nous, c'est les sketchs.
Oui.
Donc, en fait...
Les plans, c'est ça, les plans...
En fait, c'est des sketchs basés sur les plans d'architecture qui ont été fournis aux artistes.
D'accord.
Donc, en fait, comment ça a fonctionné? C'est que dans un premier temps, il y a eu... en fait, c'est par rapport à la construction de la nouvelle station canadienne de recherche dans l'extrême Arctique, le SCREA.
Oui.
Donc, le SCREA a décidé de... En fait, ils ont décidé de
prendre... Ils ont lancé un concours.
Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Non.
En fait, c'est Évoque qui a fait l'architecture de ce centre-là.
Oui.
Et Évoque a proposé à la SCREA d'intégrer de l'art dans la station de recherche. Donc ça, dans un premier temps, c'est assez innovateur. Et par la suite, en fait, ce qu'ils ont fait, Évoque, c'est que vu que c'est eux qui ont souvent les ressources, ils connaissent les artistes, ils connaissent les lieux, ils savent où aller chercher l'information, ils ont pris le mandat, en fait, de monter ce concours-là. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des plans, comme on disait, et les artistes ont dessiné sur ces plans-là, qui ont retourné, et c'est ça qu'on expose présentement. On a fait des choix éditoriaux quand même, en fait, Évoque et la Guilde.
Vous avez fait une sélection.
On a fait une sélection parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui avaient participé au concours. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a...
Donc, il y a eu une sélection qui était retenue, mais vous avez fait une sélection parmi cette sélection.
En fait, il y a eu les artistes qui ont participé, ils ont été soumis à un jury et le jury a déterminé qui sont les gagnants. Au départ, on voulait présenter tout.
Ouais.
On était comme, OK, on va présenter...
Dans l'idée idéalisme.
Exactement. Tu sais, parce que dans le milieu culturel, on est un petit peu idéaliste. Donc, et on s'est rendu compte qu'on manquerait d'espace. Donc, on a décidé de mettre l'emphase davantage sur tous les gagnants du concours. Et ces artistes-là sont Manassi Akpali Akpaliapik, Victoria Gray, Sami Kudluk, Kumatuk Kuzi Sapakurli, Bobby Nokalak, Anna Viluk, Oulayou Pilourtout, Timothy Timpitsiulak et Ningyokulu TV. Timpitsiulak nous a malheureusement quittés l'année dernière et d'après ce qu'Evoque me disait, ça a été un des derniers projets sur lesquels il a travaillé avant de malheureusement décéder l'année dernière.
Oh mon Dieu, c'est triste.
Donc, on met vraiment l'emphase là, sur l'art inuit là, avec cette expo-là présentement.
Et qu'est-ce qu'on peut voir comme œuvre exposée? Ce sont des dessins?
Oui, en fait, c'est super intéressant. Merci de le mentionner oui. parce que ce sont des sketchs. En fait, l'idée du centre de recherche, c'est vraiment de rendre hommage aux savoirs ancestraux qui ont pavé la voie à la science moderne.
Ah, ben oui.
Parce que les Inuits, ils en connaissaient un rayon là, sur l'isolation, ils ont fait tous les kayaks, les ornementations qu'ils faisaient, tout ça. Et ça, c'est vraiment pour la station de recherche qui est une station scientifique. C'était vraiment important de mettre ça de l'avant, même dans les œuvres. Donc, on va voir, par exemple, des joueurs de tambour. On va voir des dessins qui sont basés sur les traditions, les légendes, le storytelling traditionnel. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve la touche de l'artiste à travers chacun des dessins qui sont exposés là, dans l'exposition.
C'est vraiment à voir. Alors, avant qu'on parle, oui. parce que, bon, c'est une des deux grandes expositions inaugurales qu'on peut voir actuellement à la Guilde, avant qu'on parle de la deuxième exposition inaugurale, et puis on va parler aussi du lieu de diffusion, hein, parce qu'il est d'ampleur, on va faire une petite pause musicale. sûr reconnu Elisapi Isaac, hein, avec sa pièce Inouk. Bien sûr, c'est important de choisir une pièce inuit. Voilà, alors, je suis toujours en compagnie de Karine Gaucher, hein, coordonnatrice de communication, co-commissaire à la Guilde des métiers d'art, qui occupe maintenant un nouveau lieu de diffusion. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3. Alors, Karine Gaucher, on poursuit sur la deuxième exposition inaugurale, qui est d'importance aussi. 15 oui. artistes réunis. Hein.
15 artistes verriers à travers le Canada. Oui. Donc, l'exposition s'appelle Hot Matter, matière incandescente. C'est co-commissarisé aussi par une femme extraordinaire qui est Hélène Ali. Je ne sais pas si les gens
très
qui
battante,
nous écoutent...
Hein, dans le domaine de l'art, très battante.
Tout à fait. Une pionnière, oui. hein, carrément, du studio Glass au Canada, avec plus de 40 ans d'expérience dans la diffusion du studio Glass. Donc,
le studio glace d'ailleurs, qui permettait de sortir un peu le verre
du
vase, de base.
C'est ça, exactement. Oui. Et oui. ça allait sous le sens là, finalement de, oui. de faire collaborer Hélène Ali à cette exposition-là, puisqu'elle connaît beaucoup d'artistes et qu'elle a un énorme savoir-faire dans la diffusion du verre. Et en fait, l'exposition met en scène des œuvres extrêmement innovantes qui sont tous les artistes qui font partie de l'exposition ont chacun une pratique qui est différente. On a travaillé avec des artistes qui utilisent différentes techniques. On a du verre au chalumeau, on a du verre coulé, on a du verre sculpté à froid. On a vraiment plusieurs types de verre également qui sont présentés dans la guilde et différentes formes. Et c'est vraiment des œuvres sculpturales. Donc ça,
oui,
c'est vraiment important
c'est vrai.
De le mentionner.
Oui.
Et les artistes qu'on va retrouver dans l'exposition Hot Matter, c'est Marie-Hélène Beaulieu, Annie Quentin, Maryse Chartrand, Brad Copping, Sébastien Duchange, Montserrat Durand-Muntadas, Suzanne Edgerly, Carole Frève, Ito Laila Lefrançois, Tania Lyons, Caroline Ouellette, Patrick Primo, Donald Robertson, Tyler Rock et Jean-Simon Trottier. Donc, ça vaut la peine de passer à la Guilde pour voir cette exposition-là, parce que ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est un genre d'état des lieux de la pratique du verre présentement au Canada. Donc, on a vraiment...
Et de faire découvrir des artistes émergents
Absolument.
À l'avenir très prometteurs. Hein?
Tout à fait. Puis on a travaillé...
Comme Patrick Primo, écoute-moi, je suis époustouflée par la ligne pure de Patrick Primo qui a étudié en Italie, hein, qui s'est perfectionné en Italie.
Exactement. Puis c'est aussi un artiste qui aime oui. beaucoup la plongée sous-marine.
Oui.
Il s'intéresse énormément aux formes que l'on retrouve sous l'eau. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant aussi de cette exposition-là, c'est qu'on voulait pas juste montrer des artistes établis, on voulait montrer la relève également. Avec, on a aussi des artistes avec des techniques mixtes qui vont pas nécessairement seulement utiliser du verre
oui.
dans leur travail. On a une artiste, Carole Frave, qui utilise le cuivre. On a une artiste, Montserrat Durand-Muntadas, qui utilise du textile. Et on
c'est
a
très, très touchant, ses œuvres. Sont très touchantes là, sur la condition féminine.
Absolument.
Oui.
Sur le fait d'être une femme normale, entre guillemets. Donc, c'est vraiment...
Comment ça peut s'exprimer à travers
voilà.
le médium du verre.
Exactement.
Oui.
Et on a aussi une artiste extraordinaire qui s'appelle Ito Laila Lefrançois, qui est un espèce d'ovni.
Qui va de l'avant.
Un peu dans l'exposition parce que elle utilise le textile, la fourrure, il y a des coquillages, il y a une souche de bois. Mais c'est une artiste verrier d'importance. Il faut continuer à suivre cette artiste-là. Elle fait que commencer. Elle est toute jeune encore. Moi, cette expo-là m'a beaucoup apporté.
Et j'étais gravie de voir qu'elle participait à la Foire d'art contemporain Saint-Lambert il y a deux
voilà.
ans. Je ne sais pas cette année, mais là, il y a deux ans, elle était là. Je trouvais ça bien qu'elle...
Elle est allée dans une résidence
d'artiste. Elle représente le verre ici et là.
Tout à fait. Puis, en fait, tous les artistes, généralement, avec lesquels on travaille, c'est vraiment des artistes qui travaillent vraiment sur leur formation, qui veulent vraiment acquérir des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques et tout ça. Et Ito ne fait pas exception. Elle revient, en fait, d'une résidence d'artiste à Bergen, en Norvège, donc où elle a appris probablement d'autres affaires. Et j'espère qu'on va revoir d'autres œuvres très, très bientôt.
Espérons-le. Parlons maintenant d'une autre œuvre. C'est bien le lieu de diffusion.
Oui.
Vraiment, là, on se croirait en plein temple du verre. oui, sur la rue Sainte-Catherine,
avec
côté
des grandes
musées
vitrines,
des Beaux-Arts,
les
colonnes.
Oui.
Écoutez, c'est quelque chose. Moi, j'étais enchantée de ma visite et de ce choix de lieu. Et j'imagine qu'Amélie Nolly était ravie d'avoir un lieu central avec vraiment une attraction, un lieu attractif.
Tous les artistes avec lesquels on a parlé, là, surtout en métier d'art, ça manquait à Montréal, un lieu comme ça, un lieu avec autant d'espace, aussi lumineux, extrêmement bien situé. Et on est vraiment content de voir à quel point les artistes se sont vraiment rejoint là pour nous aider en fait, parce que dès l'ouverture on a eu du vandalisme, je sais pas si vous l'avez vu, on a une fenêtre fracassée encore sur Sherbrooke, on a eu des tags également, et tous les artistes qui ont participé à l'exposition du vent nous ont tous envoyé un message là, est-ce que
de
vous avez besoin d'aide, de solidarité, c'était beau à voir, on est vraiment choyés.
Et donc la firme d'architectes évoque qui a une expertise là pour ce qui est des communautés inuites et Premières Nations, qu'est-ce qu'ils ont fait comme aménagement, parce qu'il faut dire que c'était les anciens lieux de Old Renfrew qui ont été transformés.
Le département pour hommes, fait, parce que le département pour femmes est toujours là. Ensuite, je crois que Old Renfrew, ils ont déménagé dans les locaux de Ogilvy, donc c'est pour ça qu'ils ont que l'espace est resté vacant finalement. Et en fait, ce qu'on a fait avec Evoque, c'est que on a essayé de transformer ce lieu-là qui est vraiment un magasin pour hommes. Là, on va pas se le cacher. Il y avait des miroirs partout, des boiseries. C'était fait vraiment pour mettre de l'avant des habits, des chemises et tout ça. Et nous, on a travaillé avec Evoque pour transformer ce lieu-là en un lieu de galerie, un lieu muséal où le visiteur pourrait vraiment appréhender avec beaucoup plus d'ampleur là, les œuvres qui lui sont présentées. Parce que
il y a eu des ajouts de murs, tout ça. Là.
Oui, il y a eu des panneaux qui ont été rajoutés. Et pour nous, c'était ce qui était vraiment important, parce que à l'autre lieu où on était avant, au 1460 rue Sherbrooke, on manquait d'espace.
Gros manque d'espace,
ça avait pas de
lieu
sens.
Étouffant, rien pour valoriser, mettre en valeur les œuvres.
Pourtant, les gens venaient à la guilde, ils étaient heureux d'être là, ils étaient là pour supporter l'art inuit, l'art des Premières Nations, les métiers d'art, mais on manquait cruellement de place lors des vernissages, et ça a été un des facteurs qui a fait en sorte que notre CA a décidé qu'il était temps de déménager.
Nouvelle étape qui s'imposait tout à fait. Alors, moi, j'étais absolument enchantée, que ce soit par le nouveau lieu de diffusion, les deux expositions inaugurales. En tout cas, écoutez, je le recommande fortement. Et il y a un événement qui s'en vient. Il y a un événement qui s'en vient dans un peu de temps. Ça, c'est d'importance.
C'est de très grande importance. Oui. En fait, c'est le prix François Oudet 2017. Donc, c'est un prix qui est remis en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec et la Ville de Montréal. Donc, nous, ce qu'on propose aux visiteurs quand vous allez venir voir l'exposition, c'est l'exposition des finalistes du prix. Donc, la soirée du vernissage, c'est la soirée de la remise de prix, mais tout le reste de l'exposition, c'est vraiment, vous allez voir les finalistes du prix François Oudet 2017, et vous allez aussi voir les lauréats de 2016 qui sont Agi Métissage, qui vont nous faire des installations de verre et de céramique, qui vont être extraordinaires. On n'a même pas encore vu les photos, on se peut plus. Alors, il faut absolument venir voir ça. Et le vernissage est le 30 novembre.
Oui, tout à fait. Il faut aller voir ce lieu-là, parce que c'est un des rares lieux consacrés à l'art verrier au Québec, sinon au Canada. Alors,
absolument.
Mais c'est quelque chose. Alors, merci. Peut-être en terminant, nous, si on veut en savoir plus sur la guilde.
Tout à fait. Donc, dans un premier temps, je voudrais quand même dire que l'exposition Atmature, matière incandescente, se termine le 25 novembre.
Le 25 novembre, merci.
Venez en grand nombre.
Faut pas rater cette exposition d'intérêt.
Tout à fait. Et je voulais aussi mentionner que la Guilde, c'est un organisme non lucratif. Donc, les ventes qu'on fait si quelqu'un achète une œuvre, il y a une partie des profits qui revient à l'artiste et l'autre partie du profit qui revient dans le fonctionnement de la Guilde. Et,
à préserver.
C'est ça. On fonctionne beaucoup par donation aussi. Puis, on a aussi des membres qui font partie de la communauté de la Guilde. Pour avoir plus d'informations, j'invite vraiment les auditeurs à visiter notre site web au www.laguilde.com.
Alors, merci Karine Gaucher, vraiment, quel entretien des plus agréables et quel lieu fort inspirant à visiter, quelles expositions aussi d'intérêt à absolument à ne pas manquer. particulièrement Matière incandescente, là, quel beau titre.
Faut pas manquer ça.
Jusqu'au 25 novembre. Alors, merci beaucoup.